France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Louise Cognard, Barthélémy Gaillard, Joséphine Reinhardt et Antoinette Benoît. À la réalisation, c'est Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, Noé Chabanne. Alors que les catholiques se préparent à célébrer Pâques à travers le monde, notre série s'intéresse à cette communauté traversée par les doutes et qui s'interroge sur sa place dans le monde. Après avoir évoqué les divisions de l'Église face aux réformes internes, le pacifisme de François sur la scène internationale, avant de parler demain du rôle politique des prêtres et des évêques sur le continent africain, direction ce matin les États-Unis, la montée en puissance d'une droite catholique radicale.
There are a lot of things that are non-negotiable.
Beaucoup de choses ne sont pas négociables pour beaucoup d'entre nous qui sommes de fidèles catholiques. Nous ne pensons pas que l'Église dira un jour que la contraception est acceptable. Les femmes prêtres, c'est quelque chose qui peut être un peu troublant. Le mariage homosexuel est quelque chose qui... Beaucoup d'entre nous sont aux prises avec ça parce que nous rencontrons beaucoup de personnes vraiment bonnes qui sont queer. Mais cela ne changera rien au sein de l'Église.
Je pense que de nombreux catholiques se sentent abandonnés à juste titre par Joe Biden et Kamala Harris, et ils recherchent simplement quelqu'un pour protéger leurs droits et faire de ce pays un endroit abordable et décent pour élever une famille. Mais nous ne pouvons pas avoir un gouvernement américain qui persécute les chrétiens parce qu'ils vivent leur foi. Nous devons récompenser les gens et les encourager à vivre leur foi. Nous croyons.
Aujourd'hui, je signe un décret pour nommer notre procureur général, qui est une personne formidable, Pam Bondi, le chef d'un tout nouveau groupe de travail chargé d'éradiquer les préjugés anti-chrétiens. La mission de ce groupe de travail sera de mettre fin immédiatement à toutes les formes de ciblage et de discrimination anti-chrétienne au sein du gouvernement fédéral.
C'est au cours de la campagne électorale que le sénateur de l'Ohio, James David Vance, désormais vice-président des États-Unis, a commencé à livrer le récit de son parcours de croyant et de sa conversion à la religion catholique. S'il parle avant tout de son rapport intime et personnel à la foi, J.D. Vance participe aussi d'un véritable courant idéologique auquel il offre une visibilité sans précédent. Cette nouvelle droite catholique qui puise dans la religion non seulement un référentiel identitaire, mais aussi un projet politique anti-libéral, entend bien se saisir de cette occasion historique pour pousser ses idées à l'agenda. En témoigne par exemple ce décret signé par Donald Trump visant à éradiquer, je cite, « les préjugés anti-chrétiens au sein des agences fédérales ». Déterminer et organiser les catholiques intégralistes, comme ils se définissent eux-mêmes, reste toutefois minoritaire au sein de la communauté catholique des États-Unis, laquelle apparaît de plus en plus divisée alors qu'une partie des évêques et des fidèles s'organisent localement pour dénoncer le traitement réservé aux migrants. Alors qui sont les catholiques réactionnaires dont J.D. Vance est l'une des figures de proue? Quel est leur agenda et quelle vision de la société défendent-ils? Jusqu'où leur opposition au pape François peut-elle aller? C'est de toutes ces questions et bien d'autres que nous discutons ce matin avec nos invités qui sont toutes deux à distance. Blandine Chélény-Pont, bonjour.
Bonjour
et bienvenue, vous êtes professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'université Aix-Marseille, spécialiste des relations entre politique et religion aux États-Unis. Vous êtes en duplex depuis les locaux de Ici Provence à Aix-en-Provence, que je remercie de vous accueillir. Et nous sommes également avec Marie-Gaëtte Lebrun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'Université de Toulon, spécialiste des interactions entre politique et religion. Alors on l'a entendu à l'instant, Donald Trump vient de mettre sur pied un groupe de travail pour mettre fin à ce qu'il appelle les discriminations envers les chrétiens dans les administrations fédérales. Est-ce qu'il y a, Blandine Chélény-Pont, une sincère inquiétude au sein du gouvernement américain actuel pour les droits des chrétiens ?
Alors, je dirais que cette inquiétude est en fait, vient de loin, c'est-à-dire qu'elle fait partie, elle a fait partie dans les années 2010 de la rhétorique qui a soutenu la droite chrétienne au sein du Parti républicain, une rhétorique qui a été abondamment utilisée pendant la première campagne Trump et qui consiste à retourner l'argument de la liberté religieuse en argument de défense des chrétiens comme minorité, presque minorité opprimée, alors que les chrétiens resteraient la majorité de la population américaine et le fond de leur identité.
Donc cette rhétorique des chrétiens en danger, si je comprends bien, elle n'est pas nouvelle, elle était déjà présente lors du premier mandat.
Elle a été non seulement, elle n'est pas nouvelle. On peut la faire remonter encore plus loin, si vous voulez. C'est comme une conséquence d'une rhétorique plus ancienne, enfin une relation de cause à effet, si vous voulez, qui a fait boule de neige, mais qui s'est vraiment cristallisée sous Barack Obama, notamment à partir de sa bataille pour la couverture maladie et de la levée de bouclier que cette loi fédérale a suscité, notamment par le fait que dans cette couverture maladie, il y avait prévu une prise en charge de la contraception. Et à partir des années 2014-2016, on a commencé à avoir ce renversement rhétorique des chrétiens qui sont discriminés, qui sont attaqués même par la loi fédérale et dont il faudrait désormais à nouveau protéger les droits, dont leur liberté, et notamment leur liberté de conscience, face à des lois qui les affrontent ou qui les heurtent.
Marie-Gaëtte Lebrun, est-ce qu'il y a... sur quoi se basent concrètement ces défenseurs de l'idée qu'il y aurait des discriminations envers les catholiques, les chrétiens en général aux États-Unis? Et voilà, quels exemples concrets donnent-ils de réelles et avérées discriminations dont ils seraient l'objet?
Alors, un exemple qu'on a pu entendre et qui a été vraiment mis en avant pendant la campagne de 2024, c'est par exemple le fait que des militants anti-avortement qui le sont au titre de leur foi aient pu être condamnés du temps donc de l'administration Biden et condamnés à des peines de prison ferme, donc pour ce qui ne serait en fait que l'expression de leur conscience. Et d'ailleurs, Trump, à peine investi, s'est emparé de cela et a gracié une vingtaine de militants. Annonce qui a été faite, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard, la veille de la fameuse March for Life, qui est la grande manifestation anti-avortement qui a lieu tous les ans sur le Mall à Washington. Donc ça, c'est vraiment une des preuves, une des illustrations, si vous voulez, de ces persécutions. Autre exemple qui a été cité abondamment pendant la campagne par Trump et par notamment J.D. Vance, qui a été un peu le porte-parole de ce discours de persécution des chrétiens, c'est le fait qu'un mémo du FBI, du bureau du FBI de Richmond en Virginie, ait été rendu public, mémo qui évoquait le fait qu'il serait bon peut-être d'aller enquêter du côté des catholiques qui suivent la messe en latin pour voir s'il n'y avait pas des liens potentiel avec des suprémacistes blancs. Donc le fait que une agence du gouvernement aille s'immiscer au sein des églises était vraiment perçu comme un symbole de persécution et a été instrumentalisé comme tel par la campagne de Donald Trump.
Et vous l'avez dit, cette rhétorique des chrétiens en danger, elle a été omniprésente dans les prises de parole de J.D. Vance, qui est donc désormais vice-président des États-Unis. Je vous propose de l'écouter en juillet 2024 à l'occasion d'une rencontre organisée par la Faith and Freedom Coalition. J.D. Vance, élevé par sa grand-mère, raconte son parcours de croyant.
Elle lisait la Bible tous les jours, elle priait tous les jours.
Mais même si je croyais vraiment et passionnément, il y avait quelque chose d'un peu superficiel dans ma foi quand j'étais enfant. Et alors, comme beaucoup d'enfants, après que je suis allé dans l'armée, à l'université, à la faculté de droit, quelque part en cours de route, cette foi qui s'était développée en moi et qui était en train de germer s'est en quelque sorte évaporée. Et donc, quand j'étais à la faculté de droit, j'avais commencé à me qualifié d'athée. Et il y avait une certaine arrogance là-dedans. Et je pense que cette arrogance est à l'origine d'une grande partie de la culture séculière de notre pays aujourd'hui. Mais pour moi, ce qui m'a vraiment ramené au Christ, c'est de trouver une épouse, de tomber amoureux et de réfléchir à ce que l'on attendait de moi en tant que mari et en tant que père. Et donc, à l'époque, je me suis fait baptiser pour la première fois, je crois en 2018 ou 2019. Je suis vraiment revenu, et je suis revenu en grande forme, et j'adore faire partie d'une communauté de foi.
J.D. Vance, qui a fait de sa foi une fierté et aussi un argument de campagne, Blandine Chelly-Nippon. Il n'est pas le seul membre du Parti républicain à être un converti récent au catholicisme. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance au sein des élites républicaines ?
Alors, excusez-moi encore une fois d'insister sur le fait que la conversion de J.D. Vance n'est pas une particularité, que ce mouvement, il y a un mouvement de fond qui a maintenant une bonne vingtaine d'années et qui est celle de la conversion au catholicisme d'élus républicains ou de figures républicaines ou de jeunes gens qui vont faire campagne, qui vont devenir ensuite membres de ce parti et faire une carrière politique. Donc on a eu dans le passé une conversion mémorable au catholicisme, celle de Newt Gingrich, qui était donc le chef de la majorité républicaine à la Chambre sous Bill Clinton. Et Monsieur Gingrich s'est converti au catholicisme, j'allais dire avec éclat au début des années 2000, et initier un mouvement de conversion. Alors, c'est vrai que la conversion, le phénomène de conversion est beaucoup plus fréquent aux États-Unis qu'en Europe, mais on a assisté à une forme d'épidémie de conversion au catholicisme dans les rangs républicains, ce qui est, quand on connaît l'histoire de ce parti, soit savoureux, soit extraordinaire d'un point de vue historique. Mais maintenant, c'est un fait établi. Et finalement, Monsieur Vance fait partie quasiment d'un modèle de républicain qui est devenu courant.
Il n'est pas une exception et effectivement il faut rappeler que historiquement c'est le Parti démocrate qui a longtemps capté la majorité de l'électorat catholique. Marie-Gaëtte Lebrun, comment est-ce que vous expliquez que le catholicisme soit de plus en plus populaire au sein du Parti républicain en partie et notamment chez ses élites ?
Alors, il y a plusieurs éléments qui sont invoqués, notamment par ces mêmes convertis. Il y a quelque chose de contre-culturel, j'ai l'impression, chez certains membres de l'élite républicaine, pour s'incarner et symboliser, si vous voulez, une espèce de rejet de valeurs laïques et libérales. Et quelque part, quand on rejette le libéralisme, maintenant, adhérer au catholicisme, c'est une manière de signifier ce rejet du libéralisme politique, qui est vraiment la philosophie qui a sous-tendu l'expérience américaine depuis son fondement. Donc je pense qu'il y a cette dimension un peu contre-culturelle. Il y a aussi une dimension intellectuelle. Il faut rappeler que le catholicisme a joué un rôle assez déterminant dans la définition du conservatisme américain. Et le conservatisme américain tel qu'il s'est incarné jusqu'à, on va dire, l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire le conservatisme de type réganien, qui était un mélange de conservatisme sociétal, d'adhésion au marché et d'interventionnisme en matière de politique étrangère, il a été façonné de manière assez déterminante par des intellectuels, des journalistes catholiques. Donc il y a vraiment une tradition, je dirais, intellectuelle aussi. Et peut-être, par ailleurs, et ça c'est quelque chose qui a été évoqué par J.D. Vance, la dimension historique et le fait de s'ancrer dans une tradition qui a vraiment des racines extrêmement profondes. Et ça, c'est ce que symbolise le catholicisme aussi pour pas mal de ses élus et pas mal de ses hommes politiques et femmes politiques.
Vous voulez dire le fait que l'institution catholique, deux fois millénaire, est donc bien plus ancienne que d'autres courants chrétiens, notamment je pense aux protestants et aux évangéliques, est-ce que ça joue dans la séduction, dans l'attrait que représente aujourd'hui le catholicisme pour ces républicains ?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, effectivement, de la dimension historique, hein, de cet ancrage. Et c'est quelque chose qu'a évoqué directement J.D. Vance. Il a parlé de... C'est une très vieille religion. Et il parle également de la beauté, de la liturgie, des chants. Il y a aussi cette dimension, effectivement, liturgique par rapport à des églises évangéliques où la liturgie peut être peut-être beaucoup, beaucoup moins codifiée, beaucoup plus spontanée. Le fait de s'ancrer, de se rattacher à des éléments extrêmement codifiés, justifier, c'est quelque chose qui semble plaire. Et d'ailleurs, beaucoup de ces convertis adhèrent à une vision de l'Église, et enfin une liturgie en tout cas traditionnelle, quand ce n'est pas carrément à la messe en latin. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe de manière assez, assez répandue en tout cas.
Blandine Chély-Nippon.
Eh bien, je voulais rebondir et abonder dans le sens de Marie-Gate. Il y a effectivement dans cette épidémie de conversion, si on peut parler comme ça, il y a la beauté de la liturgie catholique et tout cet ensemble de ce qu'on pourrait appeler la grande tradition, une grande tradition qui est à la fois liturgique, la profondeur historique, l'enracinement. Y compris à la fois européen et romain, enfin donc tout un imaginaire qui inclut d'ailleurs une dimension politique d'un temps et d'une époque ancienne où finalement politique et religion allaient de concert. Donc il y a cette espèce de rémanence de la chrétienté. Donc tout ça est mélangé dans le recours à la religion catholique et l'affection ou le nouvel intérêt pour les messes les plus traditionnelles, liturgiques possibles et de plus en plus latines.
Alors, célébrer une messe en latin est une chose et expliquer son parcours de foi comme l'a fait J.D. Vance dans l'extrait qu'on a entendu en est une également, mais c'en est une autre d'essayer de comprendre en quoi aujourd'hui ces hommes qui sont à la tête du Parti Républicain vont puiser dans le catholicisme au service d'un projet politique, en quoi, si on prend encore une fois la figure de J.D. Vance, Marie-Gate Lebrun, en quoi l'identité catholique va servir d'aiguillon, de boussole pour un projet politique, et si oui, et lequel ?
Alors, déjà, je pourrais citer le fait que lorsqu'il a été baptisé, J.D. Vance s'est choisi comme saint patron, saint Augustin. Et une des idées de saint Augustin qu'il reprend et qu'il mentionne fréquemment, c'est que saint Augustin s'était opposé aux élites romaines. Et vraiment, dans le programme de J.D. Vance et dans les idées qu'il reprend et qu'il incarne à certains égards, c'est une remise en cause des élites qui dirigent l'Amérique depuis des décennies. Quelle que soit l'appartenance politique de la personne qui se trouve à la Maison-Blanche, ces élites qui constamment promeuvent une politique libérale, et donc il s'agit de remettre en cause ce libéralisme et de le chambouler, et donc, par exemple, de remplacer les élites par des élites qui pourraient être formées par des idées catholiques et qui vont ensuite porter ces idées catholiques au plus haut des institutions américaines.
Blandine Chély-Nippon.
Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et de ce point de vue, c'est vrai que l'inspiration de saint Augustin ramène aussi à la symbiose entre les deux cités, la cité temporelle et la cité spirituelle, avec bien sûr une prédominance de la cité spirituelle sur la temporelle. Mais le fait que les deux cités ne sont pas séparées et vont de concert, c'est-à-dire que le prince a la responsabilité dans la cité temporelle, et eh bien de mener la société, de mener le peuple selon donc les principes de la foi, tout comme donc dans la cité spirituelle, le pape a la responsabilité du salut des âmes. Et dans cette vision augustinienne, qui est un peu le fondement de l'intégralisme catholique contemporain aux États-Unis, les deux cités vont ensemble et elles ne doivent pas et ne peuvent pas être séparées parce que l'être humain est à la fois vivant et éternel de par son âme. Donc il faut que les sociétés humaines soient doublement gouvernées.
Doublement gouvernée par une autorité civile, laquelle serait subordonnée à un pouvoir spirituel. C'est ce qu'on comprend de l'essence de ce projet des catholiques intégralistes que vous étudiez l'une et l'autre aux États-Unis. Peut-être juste un mot sur ce terme intégraliste. C'est eux-mêmes qui l'ont forgé. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette notion-là qui revient beaucoup, puisque c'est vraiment l'étiquette par laquelle on essaie de désigner et de comprendre cette mouvance? Blandine Chély-Nippon.
Alors, c'est un terme qui est qui a été utilisé par des théologiens récents, des jeunes théologiens, notamment un moine cistercien qui s'appelle Edmund Waldstein et qui est à la fois américain et allemand, et qui anime un blog qui s'appelle The Georgias, qui explique sa motivation par la diffusion de la théologie intégraliste. Et autour de lui s'est constituée une nébuleuse dont notamment l'université franciscaine en Ohio qui s'appelle Steubenville, qui diffuse ce projet d'intégralisme mis au service d'un nouveau bien commun. Alors, les théologiens en eux-mêmes n'ont pas véritablement de propositions politiques concrètes, mais bien entendu qu'ils vont avoir une influence sur des intellectuels ou sur des essayistes qui vont chercher à traduire ce que pourrait être l'intégralisme en politique.
Vous l'avez dit l'une et l'autre, à la racine de ce mouvement, il y a une critique virulente du libéralisme au sens large, le libéralisme politique, le libéralisme économique. Marie-Gaëtte Lebrun, quand on entend que ce projet de société, même s'il n'est pas encore très concret, serait d'avoir une autorité civile subordonnée à un pouvoir religieux, est-ce que tout simplement il s'agit d'une alternative à la démocratie, un modèle fondamentalement antidémocratique qui est promu par ces mouvements?
Alors, au sein de ce qu'on appelle globalement le catholicisme intégraliste, il y a vraiment, comme on disait, une nébuleuse. Et il y en a ils sont tous d'accord pour formuler ce diagnostic concernant les dangers et les dégâts causés par le libéralisme. Et pas forcément d'accord sur la solution qui pourrait être utilisée pour le remplacer. Certains d'entre eux prônent une espèce de localisme, c'est-à-dire un retour à la foi qui serait vécu dans des communautés locales pour essayer de tenir bon face aux assauts du sécularisme ambiant qui domine aux États-Unis. Certains, dans la lignée du père Waldstein que Blandine Chélini-Pon vient de mentionner, ont une vision vraiment qu'on peut qualifier d'antidémocratique. Ils n'hésitent pas à dire, par exemple, que toute personne qui est catholique et baptisée devrait se soumettre au diktat de l'Église, et il cite d'ailleurs le cas de Edgardo Mortara, qui était un jeune garçon juif qui avait été baptisé à Rome du temps des États pontificaux par sa nourrice catholique, et que le pape Pie IX a en fait enlevé à ses parents pour pouvoir l'élever en tant que bon catholique, puisque tout catholique doit être élevé conformément à la foi catholique. Et donc, chez des personnes comme le père Waldstein, on peut retrouver une certaine adhésion à des principes aussi extrêmes qui font qu'on ne serait plus forcément, effectivement, libre de ses choix. Il y a une espèce de via media qui est incarnée plus par les penseurs auquel s'apparente J.D. Vance. Eux récusent le terme d'intégraliste, et je pense que c'est vraiment important de parler de ces intellectuels. Ils se définissent plus comme des catholiques politiques, et ce sont des personnes comme Adrienne Vermeule, qui est prof de droit constitutionnel à Harvard, comme Patrick Denin, qui est professeur de théorie politique à l'université Notre-Dame. Alors, ils ont une vision, effectivement, où il faut remplacer les élites, comme je le disais, et ils prônent également, alors sans parler de s'opposer à la démocratie, il parle cependant d'un état administratif fort. Donc il ne s'agit pas, contrairement à la doxa conservatrice traditionnelle aux États-Unis, de réduire le rôle de l'État. Il s'agit de s'emparer des rênes de l'État. Donc il y a quand même une vision peut-être qui pourrait, on va dire, basculer vers l'autoritarisme pour promouvoir la vision du bien commun, qui serait une vision qui s'enracinerait dans la doctrine catholique de l'Église.
Alors, en attendant de s'emparer des rênes de l'État, certains intégralistes chrétiens prônent d'entrer en résistance. Écoutez, par exemple, à ce sujet, le journaliste et écrivain Rod Dreher.
Il y a plusieurs choses que nous devons faire en tant que chrétiens. Ces conseils ne viennent pas de moi, mais de dissidents chrétiens que j'ai rencontrés dans les ex-pays communistes. Tout d'abord, nous devons nous engager à vivre dans la vérité sans exception. Nous devons trouver le courage de toujours dire ce que nous pensons être vrai, ou si nous ne pouvons pas dire ce que nous croyons être vrai, alors au moins nous ne devons jamais dire quelque chose que nous pensons être faux. Deuxièmement, nous devons former de petites communautés de foi et de résistance. Nous devons également commencer à étudier notre foi de manière beaucoup plus approfondie et à prendre conscience de ce qu'est notre héritage culturel. Pas seulement la foi, mais l'héritage occidental. Tous les mouvements totalitaires tentent d'effacer la mémoire culturelle des gens parce que cela les rend plus faciles à contrôler.
Il faut préciser que ce que Rod Dreher entend par mouvement totalitaire, ce sont les démocraties actuelles. Donc Rod Dreher, ancien blogueur conservateur proche de J.D. Vance, aujourd'hui installé en Hongrie et converti à l'orthodoxie. Il s'exprimait ici en 2021. Blandine Chelini-Pont, cette idée de former des communautés chrétiennes de résistance prend-elle forme concrètement? Est-ce suivi? Est-ce qu'on en a des cas, des recensions concrètes?
Alors, le livre de Rob Dreher, qu'il a écrit il y a quelques années maintenant, The Benedict Option, a eu beaucoup de succès médiatique aux États-Unis, mais aussi dans ses traductions européennes, sans que pour autant la dimension radicale qu'il y avait derrière ait été bien mesurée et par le public qu'il a reçu. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de mouvement de fond de cette résistance localiste. Par contre, à travers les différents écrits dont Marie-Gate a parlé tout à l'heure de ce professeur de Harvard qui s'appelle Vermeule, eh bien, la critique du libéralisme se transformer en critique des droits et libertés, transformer en critique de la démocratie libérale, a vraiment été profonde, je pense. Et on arrive aujourd'hui à ce paradoxe qu'effectivement, ce qu'on appelle les post-libéraux catholiques, plus que les intégralistes, c'est-à-dire la traduction politique des intégralistes, sont en train de chercher à réformer le régime américain, y compris d'un point de vue constitutionnel, tout en conservant son modèle démocratique, mais en lui retirant en quelque sorte sa substance libérale et en retirant les droits et libertés pour les remplacer par cette large notion dans laquelle on peut tout mettre de bien commun, ce faisant, transformant donc l'exécutif en une figure d'autorité qui impose au peuple, pour son bien, un ensemble de valeurs et de conduites morales. Voilà, donc une forme d'autoritarisme moral, mais qui aurait un fondement constitutionnel. Donc on peut aller, ils peuvent aller extrêmement loin dans leur créativité politique en inventant un modèle qui n'existe pas, mais qui sont en train de formater d'un point de vue idéologique.
Vous dites, Blandine Chelini-Pont, particulièrement par exemple dans la pensée d'Adrienne Vermeule que vous avez citée, qui a théorisé cette notion de bien commun, de common good, qu'il n'y a pas de projet de totalement démanteler la démocratie, si j'ai bien compris, de conserver une constitution, notamment des élections, mais néanmoins, cette idée de bien commun, il ne s'agit pas de convaincre les citoyens de son bien fondé, il s'agit de leur imposer.
Alors, à la fois, oui et non, enfin, oui et non. Oui, bien sûr, mais d'un autre côté, ce bien commun est très riche de sens, et on peut y placer. Bon, ça dépend évidemment de sa sensibilité, mais on peut y placer à l'intérieur un ensemble qu'on appellerait de doctrine sociale, c'est-à-dire donc l'état social, l'état providence. Donc il peut y avoir des contradictions aussi dans le contenu de ce bien commun qui est pas complètement défini, mais effectivement chacun et tous, le pouvoir exécutif y compris, serait tributaire de ce bien commun. Et à l'exécutif d'avoir un peu plus d'autorité pour l'appliquer.
Comment est-ce que dans cette nébuleuse où il y a différents courants, où il y a encore des notions qui ne sont pas complètement définies, se situe le vice-président des États-Unis, J.D. Vance? Est-il un catholique intégraliste convaincu? Est-il même encore profondément un démocrate? Comment situer cet homme, puisque aujourd'hui c'est peut-être dans cette mouvance celui qui a le plus de pouvoir concrètement en tant que vice-président des États-Unis? Marie-Gate Lebrun.
Alors, je pense qu'on peut dire que J.D. Vance, historiquement, se rapproche plutôt de la mouvance dont je vous parlais précédemment, qui est incarnée par Adrienne Vermeule, Patrick Deneen. Il était présent, c'était un des discussants lors du lancement du dernier ouvrage de Patrick Deneen en juin 2023, intitulé d'ailleurs « Changement de régime ». Et il s'est d'ailleurs défini lui-même lors de cette conférence comme un post-libéral. On le voit très fréquemment retweeter des tweets d'Adrienne Vermeule, et notamment les tweets où Vermeule dénonce certaines décisions de justice qui suspendent des décrets du président Trump. Donc il s'agit bien sûr de justifier, en tout cas de légitimer l'extension du pouvoir présidentiel, du pouvoir exécutif que Trump cherche à développer. Et là-dedans, on voit que Vance trouve une espèce d'allié, en tout cas une espèce de légitimité intellectuelle dans la personne de Adrienne Vermeule. Ensuite, il a été déjà un petit peu rappelé à l'ordre, on lui a dit, mais vous ne respectez pas forcément, nécessairement, toutes les valeurs, soit les valeurs catholiques ou alors des principes du post-libéralisme dont vous vous êtes pourtant réclamé. Il dit, oui, mais je suis également un homme politique, donc je suis obligé de composer avec la réalité, de faire des compromis et des concessions, notamment sur la question du nationalisme, qui n'est pas vraiment une valeur qui est portée par les post-libéraux catholiques ou les intégralistes catholiques, de par leur catholicisme même, on va dire.
C'est-à-dire qu'il y a aussi une temporalité politique qui s'impose à Vance, avec peut-être un projet en 2028 qui expliquerait le fait qu'il navigue encore entre différents courants et qu'il y aura aussi une dose de pragmatisme et d'adaptation dans ses propos.
Absolument, je pense que c'est un homme politique avant tout, il l'a reconnu, et j'ai envie de dire qu'il y a en fait plusieurs tendances qui se raccrochent à Vance dans ce post-libéralisme plus général, et non seulement catholique, qui a vraiment éclaté au grand jour avec la victoire de Donald Trump en 2016. Il y a plusieurs tendances, il y a les post-libéraux catholiques, il y a aussi ce qu'on appelle les nationaux conservateurs, qui ont une vision vraiment extrêmement nationaliste, anti-immigration et anti-woke, si je puis dire, et on a vu Vance parler à leur conférence annuelle à plusieurs reprises. Il y a aussi ce qu'on appelle les techno-libertariens dans la mouvance de Peter Thiel, de Curtis Yarvin, qui sont également, Peter Thiel étant un proche de Vance, ayant financé de manière très significative sa campagne pour le Sénat en 2022. Donc on a tous ces mouvements qui se raccrochent à Vance et qui voient comme Vance potentiellement leur héros et celui qui va permettre effectivement l'incarnation de leurs idées et qui va leur permettre de peser dans la redéfinition du conservatisme. Donc Vance, il navigue un peu entre tous ces courants qui sont assez, au final, assez contradictoires. Et donc ça va être difficile pour lui de réaliser cette synthèse.
Et du côté de Donald Trump, Blandine Chélini-Pont, jusqu'où le président actuel est-il perméable à ses idées à la fois réactionnaires, anti-libérales et catholiques? Jusqu'où est-il prêt à mettre toutes ces propositions à son agenda?
Alors, Donald Trump est comme une porte ouverte à toutes ces sensibilités qu'il récupère et qu'il valorise dans son propre discours avec un certain nombre de slogans. Donc il réussit derrière Vance également à mettre en musique ces différentes tendances dont Marie-Gate vient de parler, les nationaux conservateurs, donc les post-libéraux catholiques, les libertariens, mais parce qu'il y a un certain nombre de thématiques qui permettent la réunion de ces tendances qu'il représente. Cette question de la censure, de la liberté d'expression, et le politiquement correct, et plus que ça, le totalitarisme woke qui a pris la place, la persécution des chrétiens et le fait que les chrétiens allaient à nouveau avoir du pouvoir, et le dernier point qui est l'immigration de masse dont il faut se débarrasser. Et d'un point de vue plus personnel, je pense que Donald Trump est beaucoup plus influencé par d'autres tendances religieuses qui composent la droite chrétienne et qui sont plus enracinées dans le protestantisme fondamentaliste, parce que dans ces groupes, sa personne même est considérée comme élue, c'est-à-dire comme ayant reçu l'onction divine pour gagner, pour faire gagner les forces du bien, à savoir donc les chrétiens, et le fait qu'il a survécu à une tentative d'assassinat l'a lui-même persuadé qu'il était bien the chosen one, hein, l'élu que l'Amérique attendait et que lui a donné la providence.
Voilà, sauvé par la providence dans cette tentative d'assassinat. Toutes ces personnes qui gravitent dans les cercles proches du pouvoir et qui se sont converties récemment et qui se réclament du catholicisme, quelle est leur relation avec le pape François? Je rappelle que le 11 février, le pape a écrit une lettre à l'administration Trump pour dire son opposition à la politique anti-migrant. Jusqu'où François peut-il exercer une autorité morale, voire hiérarchique, sur ces catholiques américains? Blandine Chelley-Nippon.
Alors je dirais que cette lettre aux évêques que le pape François a écrite juste avant d'être malade et de rentrer à l'hôpital après sa double pneumonie, elle est rare. Enfin, c'est un acte qui est rarement utilisé, mais qu'on a déjà vu dans l'histoire de l'Église catholique américaine, notamment au début du XXe siècle. Et en fait, cette lettre répondait à un propos de J.D. Vance expliquant un principe de charité bien ordonné, si vous voulez, l'ordo amoris. Et le pape, dans cette lettre, corrige la présentation théologique que J.D. Vance fait de l'ordo amoris. Et ça résume, il me semble, l'enjeu de cette fracture catholique aux États-Unis, avec au milieu quand même une conférence épiscopale qui est sommée d'être un peu plus, ce qu'elle est d'ailleurs, hein, d'être un peu plus distante des positions actuelles prises par le gouvernement, notamment des décrets exécutifs. Et par là même souligne le fait que les tendances dont on parle chez les catholiques conservateurs et radicaux, qui en plus maintenant ont un agenda politique, ces tendances sont assez frontalement hostiles au pape François et à l'ensemble de ses orientations générales pour l'Église catholique.
D'un point de vue plus local, on a vu par exemple l'évêque d'El Paso au Texas, Mark Zeitz, appeler à une marche et une veillée de prière pour protester contre la déportation massive de migrants par les États-Unis. Est-ce que c'est révélateur à la fois d'un engagement d'une certaine partie du clergé qui va à l'encontre de Donald Trump, et puis aussi d'une fracture, comme vous le disiez, de la communauté catholique états-unienne, Marie-Gate Lebrun?
Alors, il y a certes une fracture. Les évêques ont pris position effectivement en faveur des migrants, mais on a aussi vu pas mal d'évêques, ça a peut-être été moins diffusé dans les médias, se féliciter de tout un tas de décrets signés par Trump. Notamment, vous avez fait passer un audio au début sur la task force anti-discrimination, anti-préjugés, anti-chrétiens. La conférence des évêques s'en est absolument félicitée. Les décrets sur la question des genres et qu'il n'y a que deux genres qui existent, pareil, les évêques s'en sont félicités. Tout ce qui a été en faveur des militants anti-avortement, la conférence s'en est félicitée. Et il faut rappeler que lors de la campagne de 2024, pour chaque campagne, les évêques publient un document qu'ils mettent à jour de manière régulière sur la manière dont un catholique devrait voter, ou en tout cas les orientations qu'il doit suivre au moment de choisir pour qui voter. Et l'avortement a été clairement signalé comme la préoccupation première que tout catholique catholique doit avoir en tête au moment de mettre son bulletin dans l'urne. Donc au final, le Parti républicain et Trump, même s'il a une attitude plus ambiguë sur l'avortement, et y compris Vance d'ailleurs, hein, on a vu Vance se prononcer en faveur de la pilule avortive, et ce également sur un autre sujet qui est la reproduction médicalement assistée, Trump et Vance se déclaraient favorables. Donc ce sont des choses par rapport auxquelles les évêques peuvent être assez opposés, mais ils se disent que malgré tout, c'est toujours mieux que ce que les démocrates peuvent proposer. Donc certes, il y a des prises de position pour les immigrés, mais au final, ce sont les questions de morale sexuelle qui restent malgré tout vraiment prioritaires. Et je pense que les catholiques de gauche, enfin, c'est vraiment une espèce qu'on peut qualifier en voie de disparition. Si vous voulez que je peux dire quelques éléments là-dessus, mais je ne veux pas non plus monopoliser la parole.
On va simplement rappeler que 56% des électeurs catholiques ont voté pour Donald Trump en 2024, alors qu'ils étaient 52% à avoir voté Biden en 2020. Vous écoutez Culture Monde, c'est le troisième épisode de notre série sur les catholiques consacrée aux réactionnaires et aux ultra-conservateurs qui se font une place au cœur du pouvoir aux États-Unis. Et dans un instant après la musique, focus sur les réseaux transatlantiques de ces courants de pensée. Adam a élevé Caïn, chante Bruce Springsteen, qui raconte dans ses mémoires publiées en 2016 que la foi catholique ne l'a jamais quitté, bien qu'il ne soit plus pratiquant. Vous écoutez Culture Monde, on évoque ce matin la montée en puissance des intégralistes catholiques, un courant de pensée à la fois minoritaire et radical, alimenté entre autres par des réseaux d'intellectuels européens.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
C'est un document de 40 pages intitulé « The Great Reset » qu'on pourrait traduire par « La remise à zéro » ou « La grande réinitialisation ». Il a été rédigé conjointement par deux instituts hongrois et polonais et il se présente comme un mode d'emploi pour démanteler l'Union européenne de l'intérieur. Il a été envoyé en mars à la Heritage Foundation, le think tank proche du Parti républicain, et il semble emblématique des réseaux de circulation d'idées antilibérales qui se consolident solide entre l'Europe et les États-Unis. Bonjour Valentin Baird.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes politiste, chargé de recherche au CNRS, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques et auteur de « Sciences du passé, politique du présent, la politique historique en Pologne » paru aux éditions du Croquant en 2024. Valentin Baird, qui sont ces deux instituts qui ont rédigé cette note de « Great Reset » ?
Côté hongrois, il s'agit du Matthias Corvinus Collegium, qui est en fait la principale université privée hongroise, qui est très proche du Fidesz, le parti de Viktor Orban. C'est en quelque sorte une école de cadre du parti, puis qui est aussi destinée à former une jeunesse conservatrice pour aller vite. C'est une université qui est devenue avec le temps, bon, non seulement très, 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 très bien dotée en termes de ressources financières, et une sorte aussi de centre de réflexion gouvernemental, avec une antenne à Bruxelles, et qui produit donc notamment des rapports à l'image de la note The Great Reset que vous mentionniez. Et côté polonais, Ordo Iuris, c'est une sorte de lobby de juristes ultra-catholiques, conservateurs, très proches, ou en tout cas assez liés au parti Droit et Justice qui était au pouvoir en Pologne entre 2015 et 2023, et qui a joué un rôle moteur dans l'interdiction de l'avortement en Pologne, et qu'on retrouve aussi très présente dans différents réseaux transnationaux, catholiques, pro-vie, pro-famille.
Alors, dans le contenu de cette note, il y a pêle-mêle la préconisation de la suppression de tous les symboles européens, l'hymne, le drapeau, la monnaie, etc. La suppression de la Cour de justice, la réduction du poids du Parlement et des pouvoirs de la Commission. Et puis aussi la proposition de renommer l'Union européenne en Communauté européenne des nations. Ce qu'on voit par là, c'est que ce n'est pas tant une note extrêmement, une production très théorique, mais vraiment un programme très concret.
Oui, c'est l'originalité un peu de cette note, c'est-à-dire que on savait déjà qu'il y avait une forme de convergence de vues et d'intérêts entre ce type d'organisation polonaise, hongroise, américaine avec la Heritage Foundation, mais jusque-là, il y avait peu de productions communes, ou en tout cas des choses qui restaient au stade des principes, des manifestes. Et là, on a quelque chose effectivement d'assez pratique, hein, avec deux scénarios possibles au fond de démantèlement de l'Union européenne. Donc on voit que on a un produit assez, assez unique de collaboration transnationale et transatlantique par des acteurs qui sont par ailleurs assez proches des dirigeants politiques, hein, que ce soit la Heritage Foundation aux États-Unis ou bien les organisations hongroises et polonaises, et par ailleurs des organisations qui sont rassemblées, unies par le facteur religieux dont il était question précédemment dans l'émission.
Justement, j'allais vous poser la question, à quoi sert le référentiel catholique dans ces milieux ? Est-il une sorte de socle commun ?
C'est en partie un socle commun qui permet au fond de défendre une vision du monde conservatrice qui s'articule autour de trois piliers, hein, la religion, la famille et la nation, avec évidemment, selon les acteurs, des différences qui peuvent être plus ou moins importantes, hein, qui ont été un peu abordées précédemment, c'est-à-dire au fond une différence entre des gens pour qui la religion est le fondement d'une pensée politique, donc qui ont une conception théologique du politique, dans laquelle on ne sépare pas la cité temporelle et la cité spirituelle, et d'autres pour qui la religion est plutôt un marqueur culturel, donc un ensemble de valeurs morales au fond, qui peut tout à fait cohabiter avec d'autres sources de valeurs, hein, que ce soit l'histoire nationale ou l'héritage de l'Antiquité grecque et latine par exemple.
Alors, ces deux instituts hongrois et polonais, ils œuvrent donc à tisser des liens avec les réseaux aux États-Unis, notamment ce qu'on appelle les National Conservatives, les NatCons, qui sont un des courants proches de la mouvance Make America Great Again. Comment cette nébuleuse est-elle en train de se structurer vraiment concrètement ? Comment ces liens se matérialisent-ils par des rencontres, par exemple, des événements ?
Alors, les nationaux conservateurs, c'est à la fois un courant, incarné notamment par Yoram Adzoni, qui est un théoricien politique américano-israélien, qui dirige la fondation Edmund Burke à Washington, qui est donc à l'origine de l'organisation de conférences annuelles. Et ces conférences annuelles, elles jouent un peu une fonction plutôt fédératrice. Elles vont regrouper différents acteurs aux États-Unis et en Europe qui se reconnaissent plus ou moins dans le label général nationaux conservateurs. Mais on va y trouver, par exemple, les post-libéraux proches du catholicisme intégraliste dont il était question plus tôt, des gens comme Vermeule, Dinin, qui se définissent pas nécessairement comme nationalistes, mais qui font partie un peu de la nébuleuse, au même titre que différents intellectuels européens, certains catholiques, d'autres pas nécessairement. Ce que ça permet, au fond, c'est une sorte de mise en réseau d'individus, mais aussi d'organisations. Le Matthias Corvinus Collegium hongrois est un partenaire de ces conférences, de même que la revue The European Conservative, qui est, elle, fondée au milieu des années 2000 par un ensemble d'intellectuels conservateurs européens, avec un soutien américain déjà à l'époque, et de manière intéressante, une revue qui a récemment transféré son siège d'Amsterdam à Budapest, dans les locaux du Matthias Corvinus Collegium.
Et justement, comment la Hongrie de Viktor Orban est-elle devenue une sorte de modèle à étudier ? Je crois que certains Américains viennent en séjour, il y a même des systèmes de bourse qui existent, pour étudier le modèle Orban, et comment, à l'inverse, la Hongrie devient aussi un laboratoire d'idées pour une circulation dans l'autre sens vers la droite américaine ?
Assez rapidement, en fait, dès le premier mandat de Viktor Orban entre 2010 et 2014, il y a eu la volonté de mettre en place, à travers le Matthias Corvinus, mais aussi à travers une institution qui s'appelle le Danube Institute à Budapest, un système effectivement d'échange de bourses pour faire venir en Hongrie des intellectuels, mais aussi des politiciens, y compris des militants d'organisations de jeunesse, pour venir en quelque sorte étudier le système hongrois. Certains, comme Patrick Dinin, sont venus dans ce cadre-là en séjour à Budapest. C'est le cas de Rod Dreher aussi, qui lui s'est carrément installé à Budapest, de même que Gladden Papin, un autre de ces post-libéraux américains, qui dirige aujourd'hui l'Institut hongrois des affaires internationales, qui est au fond l'Institut de recherche de l'État hongrois pour la politique étrangère. Donc via un système de financement, il y a eu l'idée de, au fond, vendre un peu le modèle hongrois à des intellos et des politiciens conservateurs européens et américains qui ne viennent pas nécessairement trouver un modèle à imiter, mais en tout cas une forme d'inspiration avec l'idée que la rupture avec le libéralisme, voire avec la démocratie libérale, est possible, en tout cas se réalise à Budapest, et qu'il y a peut-être quelque chose là à en tirer pour, au fond, s'en inspirer aux États-Unis ou ailleurs en Europe.
Et on n'a plus le temps de développer, mais il faut dire aussi que ces instituts, notamment le Matthias Corvinus Collegium et l'Ordo Iuris, qui donc sont les auteurs de cette note The Great Reset envoyée récemment aux États-Unis, entretiennent tous deux des liens avec la Russie de Vladimir Poutine. On y consacrera peut-être de prochaines émissions pour comprendre plus en détail ce qu'il en est. Merci infiniment Valentin Bert pour cette analyse. Je rappelle, politiste, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politique, le CESSP, et votre ouvrage « Sciences du passé, politique du présent, la politique historique en Pologne » s'est paru aux éditions du Croquant. Merci beaucoup à nos deux intervenantes de la première partie, Blandine Chélini-Pont, j'en profite pour remercier Yann Marant à la technique à Ici Provence qui vous accueillait pour le duplex, et merci également à Marie-Gate Lebrun, je rappelle, maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'Université de Toulon. Pardon, Blandine Chélini-Pont, j'ai oublié votre présentation, professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales. Et tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et aujourd'hui, Catherine, vous nous parlez ce matin d'un phénomène qui plombe la classe moyenne en Inde, l'endettement.
Un piège, une bombe à retardement pour l'Inde qui ambitionne de devenir un pays développé en 2047, soit un siècle après avoir acquis son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, rappelle le quotidien financier indien The Economic Times. Pour acquérir ce statut, l'Inde doit accélérer ses réformes établies sur un taux de croissance annuel moyen de 7,8% selon un récent rapport de la Banque mondiale repris par The Indian Express. Mais cette croissance est menacée notamment par la spirale infernale de l'endettement qui frappe des dizaines de millions d'Indiens de la classe moyenne, préviennent le magazine India Today et le Financial Times. Le journal britannique a rencontré Anurag, un père de famille qui vit à Mumbai ou Bombay. Anurag aurait voulu rester insensible aux dizaines d'appels quotidiens d'agents de recouvrement à son domicile. Mais ce harcèlement, explique le Financial Times, a atteint son paroxysme il y a un mois lorsqu'un employé de banque a téléphoné au patron de sa femme pour se plaindre des arriérés du couple. Pression supplémentaire sur la famille, honte et ostracisme plus important. Alors qu'Anurag a déjà perdu son emploi dans une agence de voyage, il a épuisé toutes ses économies et a accumulé l'équivalent de 13 000 dollars de dette. Son histoire, celle d'un endettement croissant, devient monnaie courante au sein de la classe moyenne en Inde, souligne la chaîne télévisée indienne ET Now et The Economic Times, alors que c'est justement ce segment de la société que le gouvernement et les banques mettent régulièrement en avant pour vanter le potentiel d'investissement de l'Inde, pays le plus peuplé du monde. Des multinationales comme Amazon, Samsung, Walmart ont fait de grands paris. Plus l'Inde s'enrichira, plus elle consommera, analyse le Financial Times. Et effectivement, la classe moyenne indienne, identifiée par un revenu quotidien équivalent à 10-20 dollars, selon le Pew Research Center, comme le précise un contributeur de Medium, la plateforme de journalisme social, cette classe moyenne en Inde veut un ordinateur portable, une télévision, une voiture, un scooter, mais aussi que ses enfants aillent dans une bonne école, énumère un patron de conglomérat indien interrogé par le Financial Times.
Mais cette classe moyenne, Catherine, en Inde, voit aussi ses revenus stagner.
et ce, depuis une dizaine d'années, indique le magazine India Today. Alors même que ses dépenses augmentent, alerte régulièrement l'analyste financier Sora Mukherjee, que ce soit dans son podcast, dans les colonnes du journal indien Economic Times, ou bien sur la chaîne ET Now ou sur Federal.
If you are exposed for years on end to a social media construct, which suggests to you that you can also have the life that PL cricketers have, you should also have.
Si vous êtes exposé pendant des années au contenu des réseaux sociaux qui vous font croire que vous aussi, vous pouvez mener la même vie que les joueurs de cricket avec le dernier smartphone, avec 3 semaines de vacances par an dans des endroits exotiques, avec une maison équipée des derniers gadgets électroniques, explique l'analyste financier Sora Mukherjee sur la chaîne de Federal, alors vous allez acheter à crédit pensant rembourser plus tard. Et cette tendance s'est renforcée après la pandémie. Les banques indiennes ont démocratisé l'accès au crédit, alors tant mieux pour les petites entreprises, estime cet analyste financier, mais cela a aussi permis aux Indiens de s'endetter sans effort, presque sans y penser. Et aujourd'hui, notre classe moyenne est l'une des plus endettées au monde, déplore Sora Mukherjee. Et c'est un changement culturel considérable, estime le magazine indien BW Business World, car la classe moyenne était autrefois connue en Inde pour sa prudence financière. Aujourd'hui, 2/3 des familles indiennes ont recours à des prêts personnels. Alors, améliorer l'éducation financière est crucial pour autonomiser cette classe moyenne. Une sensibilisation dès l'école pourrait aussi être une solution, estime le magazine indien BW Business World. Mais il faut aussi durcir la réglementation des prêts. Et le gouvernement indien doit également réfléchir à une meilleure répartition des richesses, estime The Economic Times. Car si la classe moyenne en Inde stagne, pendant ce temps, les ultra-riches, eux, voient leurs revenus augmenter.
Et au Brésil, pour terminer, des citoyens ont décidé de verdir leur ville.
Fatigués d'attendre que les politiciens agissent, des volontaires ont donc retroussé leurs manches pour planter des arbres dans les rues, annonce El País América, ce qui permet de lutter contre les îlots de chaleur dans des grandes villes comme Rio de Janeiro, souligne Jornalismo Ambiental. En périphérie surtout, le ciment et l'asphalte s'étendent à perte de vue. Les arbres brillent par leur absence, selon El País América, si bien qu'il est imprudent de marcher dehors à midi en plein soleil, mais des habitants du quartier d'Olaria notamment ont décidé de changer la donne. Il repère des zones qui pourraient devenir des mini-jardins, explique El País América. Ces cariocas lancent ensuite des campagnes de financement participatif. Ils vendent des t-shirts et achètent et plantent des arbres. Ils ont ainsi réussi à verdir des rues entières de Rio. Salut El País América. Le ministère de l'Environnement vient de lancer une consultation populaire pour élaborer un plan national de plantation d'arbres en milieu urbain, rapporte Diario de Povo. Les écologistes s'en félicitent, mais ils craignent que cette idée, comme on dit au Brésil, ne sorte jamais du papier, écrit El País América. Les défenseurs de l'environnement veulent au contraire l'enraciner dans le quotidien des Brésiliens.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On vous retrouve demain pour la revue de presse internationale dans la matinale de Guillaume Herner. Et quant à nous, on se retrouve demain pour le dernier épisode de notre série consacrée aux catholiques dans le doute. Nous serons du côté de la République démocratique du Congo pour parler du clergé qui a longtemps joué un rôle de vigie de la démocratie et qui est désormais prié de se taire, y compris dans son travail de médiation dans le conflit. Au Kivu, nous en parlerons avec les chercheurs Trésor Kibangula et Onesfor. C'est Matumba et dans un instant, les midis de culture par Marie Laborie.